Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, M. Claude Julien gagnait, là, si je ne m'abuse, 5 millions par saison. Donc, on y doit encore quelques millions et il va toucher ses 5 millions pour la prochaine saison. C'est pas une fin d'emploi comme un employé normal.
Non, mais premièrement, Patrick, parlons de l'or US. Hein, il y a quand même un taux de change intéressant.
T'as raison,
l'autre point, c'est que ce sont des données privées. Donc, on extrapole dans les médias. Peut-être que le Canadien avait une clause contractuelle en lui disant « si tu es congédié, on te paie une fraction », mais quand même, il est au Québec, c'est un salarié, et donc, Patrick, il y a quand même une question à se poser. Est-ce que le versement qui lui sera payé sera un prolongement de son salaire, c'est-à-dire qu'on va le payer pendant 12 mois sans travailler, ou une indemnité de cessation d'emploi? Parce que si on continue de le payer pendant 12 mois et qu'en cours de 12 mois, une autre équipe le signe, le Canadien pourrait être, disons, allégé d'une partie du paiement. Et si on continue de le payer, il va devoir payer ses charges sociales au Québec, t'sais, Régie des rentes du Québec et tout ça, jusqu'à atteindre du plafond, qui, pour Claude Julien, est à la première paye, évidemment. Et l'autre point, c'est que si c'est une indemnité de cessation d'emploi, c'est-à-dire qu'on traite ça comme un paiement unique et que c'est, ou peu importe, en plusieurs mois, mais que c'est une indemnité de cessation, bien, on va voir ça un peu comme une retraite anticipée. Et là, Patrick, il pourrait avoir la chance de ne pas payer certaines charges sociales sur le montant. Là, c'est Claude Julien. Je te fais un parallèle avec la vraie vie parce que c'est drôle. Parce que Claude Julien, les charges sociales, ça ne l'inquiète pas. Mais à la maison, si ça vous arrive, pensez à ça. Alors, fiscalement, faites-vous-en pas, c'est imposable quand même. Mais si Claude Julien avait été à l'emploi du Canadien avant 1996, il aurait pu avoir la chance de verser une partie à céréales directement. Et bon. Mais là, j'ai peut-être un échappatoire pour Claude Julien.
C'est quoi?
Bien, s'il devient non-résident avant de recevoir l'allocation de retraite, si c'est traité comme une allocation de retraite, bien, il pourrait se voir traité comme un non-résident fiscal et donc n'avoir une retenue à la source que de 25 % comme les non-résidents. Alors, ça, mais il serait imposé ailleurs peut-être, mais il y a une réflexion à avoir. Je ne sais pas la vie personnelle de Claude Julien, mais il pourrait peut-être dire « je retourne vivre au Delaware ». J'ai aucune idée. C'est un exemple.
Mais penses-tu que son avenir financier est assuré?
Je pense que ça fait longtemps. Hein? Écoute, quand tu as déjà évolué pour les Nordiques, dans quelle année évolué pour les Nordiques?
Pas dans les années où les joueurs faisaient des millions.
Non, hein? À l'époque, non. Peut-être avant Stéphane Morin, j'imagine, ça donne une idée. Mais, Patrick, j'ai appris des choses intéressantes aujourd'hui, je vais t'avouer, j'en apprends toujours. Je connais la fiscalité des salaires et des bonus, tout ça, mais là, savais-tu que, disons que tu quittes ton emploi et que tu réussis à démontrer que tu as eu un préjudice d'ordre de souffrance morale ou que tu as été victime de diffamation, calomnie ou médisance? S'il y a un règlement ou une sentence de la Cour qui t'attribue un montant en dommages et intérêts, ah ben le montant n'est pas imposable. Même chose si tu étais congédié violation des droits de la personne.
C'est normal, il me semble, c'est pas une paye.
Non, mais en même temps, c'est pas une paye, mais c'est une indemnisation. Mais si on dit que tu as été victime de quelque chose, c'est comme un paiement, mais en même temps, c'est pour remplacer du salaire. Mais malgré tout, c'est non imposable dans les conditions où tu as vécu un dommage moral.
Okay.
Même chose pour les dommages punitifs. Mais l'autre chose qui est intéressante, si jamais le Canadien fournit à Claude Julien des services conseils en matière de réemploi ou de retraite dans le cadre d'un règlement de fin de contrat, ce n'est pas imposable au niveau des conseils.
Pas sûr qu'ils vont y payer ça. Là.
Puis Patrick, je me pose la question, mais c'est sûr, Claude Julien doit l'assurance chômage. Dans le payer... je ne sais pas s'il va le réclamer.
C'est quoi la nature du lien? C'est un contractuel ou un employé?
Ah, ça, c'est un employé, selon moi, Patrick, parce que c'est un salarié. Fait que, à la fin de son contrat, s'il recherche un emploi et ne le trouve pas, bon, là, la question, c'est est-il obligé d'accepter un emploi dans la Ligue junior majeure du Québec ou la East Coast League? Je ne sais pas, mais c'est un exemple.
OK. Parle-moi de la réorganisation chez le Québec.
Oui, Patrick, c'est important parce que c'est un beau signal qu'on a eu aujourd'hui. Ça a passé un peu sous le radar, évidemment, avec l'éclipse médiatique, mais Sophie Brochu a dit non, il n'y en a plus de division officielle d'exemple filiale chez le Québec, transport, production, distribution. Vous allez devenir des segments, si tu veux. Donc, il n'y aura plus un président à la tête de chaque division. Et ça, Patrick, c'est niaiseux. Mais au côté leadership, c'est un message fort. Parce que chez Hydro-Québec, ça se peut qu'il y ait des gens à l'interne qui traitaient leur division comme une entreprise indépendante puis dire « je travaille pour ma division Transénergie » ou « je travaille pour ma division production » ou « pour ma division distribution » et « pour mon président ». Et maintenant qu'il y a une présidente en haut de tout ça, elle peut dire « savez-vous quoi? Vous n'êtes plus des présidents. Vous êtes des vice-présidents exécutifs. » Et donc, on envoie un message clair à toutes les divisions. Vous travaillez pour le bien-être de Hydro-Québec. Alors, d'un point de vue organisationnel, ça prend du courage. C'est facile de s'asseoir dans une société d'État, t'asseoir dans le siège, puis faire comme tout bon gestionnaire. On a toujours fait ça comme ça, on va continuer. Et l'autre point, Patrick, ça m'amène à parler de ces fameux titres professionnels. Là, ils passent de président à vice-président exécutif, les chefs des divisions. Dans la vie, là, on donne aux étudiants puis aux nouveaux travailleurs l'ambition de devenir chef d'équipe, directeur adjoint, directeur, contrôleur, vice-président, vice-président adjoint, vice-président exécutif, premier vice-président exécutif et président. Et dans l'entreprise, privée ou publique ou peu importe, ça fait partie d'un statut social et d'une reconnaissance hiérarchique qui n'est définie que souvent par les responsabilités, mais oui, par le titre. Et tu vois que faire une position comme ça dans une entreprise, c'est venir chambarder l'acquisition du titre de président chez certains. Et ça peut blesser des égos. Et ça te démontre à quel point on est travaillé fort dès notre enfance là-dessus. D'ailleurs, Patrick, je vais travailler fort parce que quand j'étais petit, il y avait un jeu qui s'appelait « Le pauvre mec ». Il y avait le pauvre mec, le secrétaire, le vice-président et le président. Bon, tu connais le vrai nom de ce jeu-là, mais je ne peux pas le dire à la radio. Et donc, on nous montrait...
Le TDC.
Oui, le TDC. On nous montrait dès le départ que le but dans la vie était de devenir président et qu'une démotion était mal vue parmi les autres joueurs. Et d'ailleurs, c'est quoi les règles de ce jeu-là? Les moins nantis dans le système donnent leur meilleure carte, travaillent pour le président et le vice-président, et le président et le vice-président délaissent les mauvaises cartes, donc les tâches qu'ils ne veulent pas. Et donc, j'ai trouvé que c'est une excellente métaphore de la vie pour faire un parallèle avec ça.
Et on vient de recevoir un mémo. Tu es maintenant promu au rang de chroniqueur émérite, mon cher.
Je pensais que tu allais dire chroniqueur retraité jusqu'à demain.
À demain, mon gars.
Salut.